C'est-à-dire, pourquoi en fait, on doit tout le temps aller à l'école?
Mais pourquoi aller à l'école? Eh bien, pourquoi pas pour le plaisir d'apprendre. C'est d'une certaine manière le souhait que formule Philippe Mérieux dans son dernier ouvrage, un manifeste intitulé « Le plaisir d'apprendre » et publié chez Autrement. Philippe Mérieux a demandé à 12 contributeurs d'évoquer le sujet avec lui. Plaisir, effort, transmission, comment marier ces notions sans angélisme éducatif? Nous en débattons dans un instant. Rue des Écoles, le rendez-vous de l'éducation de France Culture. Attachée de production Geneviève Méric, Vanessa Nadjar est à la réalisation, Élise Le à la prise de son. N'oubliez pas le podcast sur franceculture.fr à la page de Rue des Écoles et sur Twitter, notre hashtag c'est RDE. Le pédagogue le plus célèbre de France est avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous acceptez cette présentation. Bonjour Philippe Mérieux.
Bonjour. Sûr d'être le plus célèbre de France.
C'est la première fois que vous venez chez nous à Rue des Écoles pour vous présenter un petit peu à nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas ou pas complètement. Vous avez été professeur à l'université, vous avez enseigné à l'école primaire, mais après, vous avez également enseigné en lycée professionnel. Vous avez été aussi plusieurs fois chargé de mission au ministère de l'Éducation nationale. Vous avez dirigé l'Institut national de recherche pédagogique, vous avez été formateur d'enseignants. Vous êtes aujourd'hui engagé en politique et élu Europe écologie Les Verts, vice-président de la région Rhône-Alpes, en charge de la formation tout au long de la vie. Vous avez publié de nombreux ouvrages et aujourd'hui, ce manifeste, le plaisir d'apprendre, et c'est chez Autrement, nous allons en parler. Mais d'abord, deuxième édition de notre point ministre. Mercredi dernier, je me suis rendue à la passation de pouvoir rue de Grenelle.
En accueillant aujourd'hui Benoît Hamon, ici, et je pense que c'est un bon choix pour l'éducation nationale, beaucoup de choses sont dites sur l'école en France. Elle est en difficulté. Et la nation tout entière doit l'aider à retrouver à la fois plus d'excellence et plus de justice. C'est un travail énorme, car peut-être l'école n'est plus autant qu'elle l'aurait dû à l'agenda de la République. Mais c'est la volonté de la gauche qu'elle le soit à nouveau et qu'elle permette à tous les enfants de France de réussir. On ne peut pas accepter d'entendre que notre pays est celui dans lequel les inégalités sont les plus grandes, de voir le niveau de l'excellence baisser.
Une grande émotion dans la cour du ministère pour ce dernier discours de Vincent Peillon devant ses collaborateurs. Et c'était donc la première prise de parole en tant que ministre de Benoît Hamon.
J'irai beaucoup sur le terrain, je vais beaucoup me déplacer, je vais beaucoup cogner à la porte des salles de professeurs. Je ne verrai pas que les professeurs, je parlerai avec l'ensemble de la communauté éducative, mais j'entends être un ministre très, très présent sur le terrain. Je m'inscrirai dans le sillage des choix politiques courageux qui ont été faits par le ministre de l'Éducation nationale et la ministre en charge de la réussite éducative. Et j'espère que je pourrai, à ma tâche, en charge de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, faire aussi bien qu'ils ont fait, en tout cas, je mettrai toute mon énergie et je la déploierai à servir cette priorité à l'éducation et à la jeunesse choisie par le président de la République.
Un ministre qui va cogner à la porte de la salle des professeurs. Pourtant, ces réalités politiques, elles semblent un petit peu loin parfois de la réalité des enseignants et des élèves. Philippe Mérieux, peut-être pour commencer, vous qui avez travaillé au ministère de l'Éducation, qui avez été chargé de mission, sur le manque de continuité politique. On change de ministre après seulement 22 mois et une refondation engagée, mais qui n'est pas terminée.
Oui, alors manque de continuité politique, ce n'est pas sûr. Nous venons d'entendre à la fois Vincent Peillon et Benoît Hamon. Ils nous assurent qu'il y aura une continuité politique. Alors c'est vrai que je fais partie de ceux qui pensaient que la refondation de l'école était nécessaire, que Vincent Peillon avait engagé des chantiers importants. Je pense aussi qu'elle est, après les derniers résultats électoraux, encore plus nécessaire, puisque ces résultats montrent un certain désarroi citoyen dans le pays et que l'éducation a un rôle à jouer dans ce domaine-là. J'espère de tout cœur que, effectivement, on ne reculera pas sur un certain nombre de chantiers essentiels. J'espère aussi qu'on avancera sur d'autres. Benoît Hamon a fait part de sa volonté de lutter pour plus de justice scolaire. C'est effectivement un point absolument essentiel, lutter contre toutes les formes d'injustice et d'inégalité dans l'accès au savoir. Attendons maintenant ce que va dire à la fois le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale et comment ils vont tenter d'aller au-delà de ces chantiers qu'avait engagé Vincent Peillon.
Je voudrais revenir avec vous sur ce désarroi citoyen. Est-ce que l'école a un rôle à jouer pour l'éducation civique telle qu'elle se fait aujourd'hui pendant toute la scolarité? Vincent Peillon a lancé un enseignement de la morale laïque à l'école. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas? Est-ce que la conscience citoyenne, ça s'apprend à l'école selon vous, Philippe Mérieux?
Oui, en tout cas, ça s'apprend aussi à l'école de toute évidence, même si la famille d'une part, tout le tissu associatif et culturel d'autre part, ont une place à prendre dans la formation du citoyen. Mais l'école est essentielle, c'est là où passent tous les enfants et c'est là où ils se découvrent dans leur diversité, c'est là où ils accèdent aux savoirs fondamentaux de la citoyenneté. Et je crois qu'effectivement, cette abstention massive des jeunes à laquelle nous avons assisté aux dernières élections est un signal, c'est un signal à prendre très au sérieux, un signal sur l'impératif d'éduquer que notre société a aujourd'hui à l'égard de sa jeunesse. Et je voudrais simplement, pour le fun, en quelque sorte, vous rappeler une citation du manifeste de Pontigny qui a été rédigée à l'initiative de Jean Zay, le grand ministre de l'Éducation nationale, oui, du Front populaire, qui fut tué, assassiné par la milice. Jean Zay qui avait réuni à l'été 1937 tous les mouvements d'éducation populaire, pas seulement de France mais d'Europe, pour rédiger un manifeste. Il me semble particulièrement d'actualité. Voici ce qui est écrit dans le manifeste de Pontigny, 1937. « Persuadé du rôle primordial des faits économiques dans l'évolution des sociétés, certains en étaient venus à méconnaître les facteurs psychologiques, pédagogiques et sociaux. Ils oubliaient qu'il ne servirait à rien de bâtir un monde économique nouveau si l'on ne préparait pas dès maintenant des hommes capables d'y bien vivre. Sinon, écoutez, l'équipe gouvernante changera peut-être, mais l'oppression et l'injustice renaîtront d'elles-mêmes. Il faut en particulier que nous puissions nourrir les aspirations des jeunes, que nous puissions offrir à leur énergie autre chose que l'exaltation de telles vedettes ou de la haine partisane née dans l'aveuglement ou même une déification sommaire du sport. » Je crois que rien n'est plus d'actualité que ces quelques phrases. Il faut en effet nourrir les aspirations des jeunes, en particulier pour qu'elles s'investissent, ces aspirations, ailleurs que dans l'exaltation d'une vedette ou la haine partisane née dans l'aveuglement.
Eh bien, vous avez eu l'occasion de le dire ici. J'ajoute que nous avions consacré il y a un an une très belle émission à Jean Zay avec l'historien Olivier Loub. Elle est encore disponible en podcast et en réécoute sur le site de France Culture. Évidemment, on va passer au plaisir d'apprendre, si vous le voulez bien. Donc, c'est un manifeste que vous publiez là, chez Autrement, avec 12 contributeurs, une journaliste parmi eux, Emmanuel Davier, et aussi Marcel Gaucher, Éric Favet de la Ligue de l'Enseignement. Je ne vais pas tous les énumérer. Pour peut-être faire le lien entre nos deux sujets, il y a une idée que vous dénoncez avec beaucoup de force au début de cet ouvrage, c'est l'utilitarisme scolaire. Un utilitarisme qui serait bien souvent déjà dans la tête des élèves, même assez jeunes. À quoi ça sert? À quoi ça va me servir? Est-ce que ce travail est noté? On est à la fois dans une idée très pragmatique, hein, c'est les élèves au quotidien qui posent beaucoup de conditions pour se mettre au travail, et puis dans une idée plus large, plus philosophique, sur la place de l'apprentissage, du savoir dans la société contemporaine. Philippe Mérieux.
Oui, au fond, on est là dans l'idée que les connaissances scolaires, les savoirs et la culture ne trouvent leur justification que par l'usage que l'on peut en faire en dehors de l'école. Alors c'est bien évidemment en partie vrai. C'est vrai qu'on apprend la soustraction pour vérifier qu'on ne va pas nous voler notre monnaie quand on va acheter notre pain. Mais ce n'est pas cela qui finalement finalise vraiment les savoirs scolaires. Ce pourquoi nous plaidons un certain nombre, et vous avez cité quelques auteurs, il y en a de nombreux dans ce manifeste, c'est pour donner à ces savoirs scolaires du goût, savoir s'appairer, le goût, pour permettre que ceux et celles qui ne voient pas l'usage immédiat de ces savoirs, eh bien, puissent néanmoins y trouver du plaisir, trouver la joie de comprendre, découvrir le bonheur qu'il y a à s'approprier des œuvres élaborées par les hommes tout au long de leur histoire pour leur émancipation. Et je crois que c'est cela aussi un des devoirs de l'école, c'est cela un des moyens prioritaires pour lutter contre l'injustice scolaire dont parlait précisément Benoît Hamon. Dès lors que certains élèves savent, parce qu'ils l'ont appris dans leur famille, dans leur environnement, qu'il y a du savoir, dans le savoir, du plaisir possible, eh bien, ils vont pouvoir faire un certain nombre de sacrifices, de satisfaction immédiate, tandis que d'autres élèves vont vivre cela comme une sorte de parcours du combattant absurde, dont l'usage extrêmement hypothétique et lointain ne leur apparaît pas du tout évident. Et c'est cette injustice-là contre laquelle, je crois, l'école doit lutter.
On va revenir à cette idée d'injustice, mais pour rester un peu sur l'utilitarisme, le fait de le combattre, et puis évidemment cette notion de plaisir d'apprendre, je vous propose de dialoguer avec un enseignant. Il est au téléphone. Bonjour Louise Bonneau.
Bonjour.
Vous êtes donc enseignant, vous enseignez le français, blogueur aussi, lavimoderne.net, c'est votre site. En général, vous n'êtes pas tendre avec l'ISUFM, la pédagogie, et pourtant, en écoutant Philippe Mérieux, je me disais, vous ne pouvez être que d'accord sur ce qui vient d'être dit.
Ah oui, j'ai vraiment apprécié ce que vous avez dit sur l'utilitarisme scolaire, je trouve ça très beau. Mais c'est alors à peu près à l'opposé de ce qu'on est en train de fabriquer avec les nouveaux programmes, par exemple, calqués sur PISA, et l'idée que finalement, ce qu'on doit apprendre à l'école doit se résumer à des choses un peu essentielles pour la vie courante. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette idée que l'école, elle est là pour bien autre chose. Hein. Elle est là pour apporter des choses qui ne seront pas forcément utiles ou pas forcément utiles maintenant. Et puis aussi parce qu'elle est là pour apporter un patrimoine qui peut être simplement une forme de beauté, quoi. Donc on est vraiment dans quelque chose qui dépasse largement la simple utilité. Ce sur quoi je reviendrai, c'est cette notion de plaisir, et tout le monde est d'accord évidemment pour que les élèves éprouvent le plus grand plaisir si possible à l'école. Hein. Bien sûr, je ne crois pas qu'il y ait des professeurs qui prennent de plaisir à ne pas faire plaisir à leurs élèves, mais ce qui m'inquiète, c'est que cette notion de plaisir, elle est au cœur de l'école, elle est inscrite dans l'école depuis longtemps maintenant. Hein.
On a changé le programme. C'est déjà le cas, c'est déjà au centre, ça tient à cœur aux enseignants.
Ouais, j'ai découvert un peu les nouveaux programmes de 96. Il y a ce mot plaisir qui est inscrit à l'intérieur de ces programmes, mais je ne sais pas combien de fois. Donc en fait, le plaisir à l'école, il existe depuis très très longtemps. Bah, ça a dérivé sur des choses qui posent beaucoup de problèmes et qui expliquent en grande partie le naufrage qu'on est en train de connaître actuellement. On a voulu faire en sorte, par exemple, d'amener les élèves à la lecture en passant plutôt par des lectures de jeunesse, y compris au collège, et puis par des bandes dessinées, et puis par des activités qui étaient plus proches d'eux. Et puis finalement, on les éloigne d'une forme de culture à laquelle on devrait au contraire les élever, puisque c'est ça le principe de l'élève. Hein. Et on échoue. Enfin, cette justice scolaire, finalement, en proposant le plaisir immédiat aux élèves dans la pédagogie, dans la façon d'enseigner, en ludifiant l'école, on empêche les élèves qui auraient le plus besoin que l'école leur apporte finalement des outils structurants pour réussir et acquérir cette espèce d'autonomie qui serait un peu la fierté de l'école républicaine, hein, celle de Condorcet. On a fabriqué des élèves qui sont en grande difficulté, y compris avec l'écrit le plus simple ou la lecture la plus simple.
Je crois qu'il faut absolument que Philippe Mérieux réponde à cette critique. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations, tout de même, de Loïc Bonneau, de baisse du niveau, de prendre des objets qui seraient moins dignes de l'école comme support d'apprentissage?
Alors, deux choses. D'une part, il n'y a aucun objet, même le plus simple, qui ne puisse faire l'objet d'un travail intellectuel très exigeant. La littérature de jeunesse, mais même une bande dessinée, peut faire l'objet d'un travail intellectuel très exigeant dès lors qu'on va rechercher dans cet objet autre chose que la satisfaction immédiate, qu'on va chercher à en comprendre la structure, qu'on va chercher à en démonter les mécanismes et qu'on va loin, qu'on ne se contente pas de rester dans la sidération, de rester dans le plaisir du tout de suite. Et puis, par ailleurs, il y a un certain nombre d'élèves pour lesquels il y a des étapes à ménager. Alors évidemment, la difficulté, j'entends bien mon collègue, c'est qu'on ne campe pas sur des étapes intermédiaires. De la même manière qu'il ne faut pas camper sur la manipulation expérimentale pour accéder à l'abstraction, on peut bien entendre que dans un certain nombre de disciplines, en physique, en technologie, on passe par des manipulations expérimentales pour accéder à une abstraction exigeante. Et je crois qu'il n'y a pas antinomie du tout entre le fait de prendre les élèves là où ils sont et comme ils sont et de vouloir les élever, comme vous dites joliment, et aspiration que je partage complètement. Moi, je ne suis pas du tout pour me mettre au niveau des élèves. Ce serait une forme d'abdication complète, mais je pense qu'il faut se mettre à leur portée. Alors, se mettre à la portée des élèves dans un premier temps, pas pour se mettre à leur niveau, mais pour leur permettre d'accéder à un niveau supérieur, et d'accéder à cette joie de comprendre dont je suis convaincu que même les élèves les plus en difficulté peuvent y accéder, et peuvent y accéder sur des objets complexes, sur des objets difficiles, sur des objets exigeants. Moi, je suis frappé de voir, et récemment encore, quand j'étais dans un lycée professionnel, j'étais très frappé de voir que des élèves qu'on dit en difficulté, qui ont eu des scolarités extrêmement chaotiques, peuvent se passionner pour des grandes œuvres, peuvent se passionner pour la théogonie d'Hésiode, alors qu'on leur fait aujourd'hui apprendre l'orthographe en remplissant des constats amiables. Non, moi je suis pour passer par la théogonie d'Hésiode, parce qu'il y est question de la paternité, parce qu'il y est question de la violence, parce qu'il y est question de l'amour et de la mort, et que ces choses-là interpellent profondément ce que ces élèves ont de plus essentiel à eux, et fait que leur investissement scolaire, eh bien, il retentit avec quelque chose qui, finalement, leur est essentiel. Si nous ne rentrons pas dans cette perspective-là, je crains que ces questions fondamentales que les élèves se posent, eh bien, ce soient les joueurs de flûte de la sous-culture la plus commerciale et la plus démagogique qui s'en empare, et l'école qui échoue à les mobiliser sur des enjeux intellectuels forts.
Donc là, vous semblez combattre les mêmes mots, hein, n'est-ce pas, Loïse Bonneau?
Oui.
En même temps, si on se réfère aux pratiques pédagogiques, à la manière d'enseigner et de transmettre en classe, vous n'avez pas de bons souvenirs, je crois le savoir, et je crois l'avoir lu sous votre plume, de bons souvenirs de l'IUFM. Qu'est-ce qui ne vous convient pas avec les pédagogies contemporaines, Loïse Bonneau?
Moi, j'applaudis à ce que vient de dire Monsieur Mérieux. Hein. Je suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, ce qui s'est passé, moi, dans mes années d'UFM, j'ai pas vécu ça comme un calvaire terrible, hein, mais j'ai vécu ça avec une sorte d'étrangeté fondamentale. J'avais l'impression d'avoir un décalage entre ce que je voyais dans mes classes et ce qu'on me disait de faire. C'était de vouloir justement porter cette exigence de la culture à laquelle tous les élèves sont effectivement sensibles. Et cette exigence, on m'a un peu freiné, on m'a demandé d'y renoncer. On m'a demandé de renoncer à enseigner l'orthographe en me disant que c'était... Enfin, on me l'a pas formulé comme ça, j'exagère un petit peu, mais on m'a dit qu'il fallait surtout pas faire un mémoire sur l'orthographe. On m'a interdit de faire un mémoire sur l'orthographe à l'UFM. Je vous promets, je n'invente pas. Hein. J'ai un inspecteur qui est venu nous dire que finalement le français que parlaient nos élèves, leur français vernaculaire, pour le citer, c'était finalement aussi bien que notre français académique relatif qui était pas très important. Et moi qui suis une sorte de camusien qui veut apporter aux élèves ce savoir, j'en ai conçu une espèce d'immense désespoir d'entendre ce discours de la part même de l'institution. Et dans la pédagogie, ça se traduit une recherche du sens, alors qu'on sait très bien que les élèves peuvent le comprendre, hein, que le sens ne vient pas tout de suite. Le sens, il vient peut-être même rétrospectivement. Il y a des gens qui comprennent longtemps après que l'école a pu leur apporter. Donc le sens, effectivement, si on peut l'apporter aux élèves, c'est très bien. Mais parfois, il faut aussi accepter cette part de mystère, cette part d'effort. La pédagogie du sens, la pédagogie du projet, la pédagogie de la transdisciplinarité, etc. Toutes ces pédagogies qui sont entrées dans l'école et qui maintenant... d'une certaine manière, sont diffusés un peu partout. On le voit dans plein de réformes qui sont entrées au collège ou au lycée. Et ben ces pédagogies, elles ne portent pas leurs fruits. Voilà ce que je constate tout simplement. Hein. On avait une école qui fonctionnait tant bien que mal et pas parfaitement, loin de là, on peut bien le dire, mais qui avait au moins cette vertu d'amener les élèves à savoir lire, à savoir écrire, savoir compter, et puis on pouvait espérer pouvoir les conduire encore plus loin avec 12 ans de scolarité, vous imaginez, maintenant presque tous les élèves vont au lycée. Et ben même en sortant du lycée, on a des élèves illettrés aujourd'hui. C'est ça qui m'indigne.
Alors je vais reformuler la question et Philippe Mérieux va vous répondre. Faut-il accuser la pédagogie du sens, ou la pédagogie constructiviste, ou celle qui met l'élève au centre et qui met à l'honneur sa recherche de sens dès le début des apprentissages. Faut-il accuser ces pédagogies d'être à l'origine des échecs de l'école française ? C'est une accusation grave que vous portez là, Loïse Bonneau. Philippe Mérieux.
Oui, alors il y a un certain nombre de lieux communs qui sont largement diffusés dans le champ pédagogique et de la formation. Donner du sens au savoir en fait partie, individualiser les apprentissages en fait partie, motiver les élèves en fait partie. J'ai écrit un petit livre avant celui-là, précisément pour dénoncer ces lieux communs qui sont des manières de contourner les vrais problèmes et parfois de se réconcilier artificiellement sur de fausses évidences. Alors oui, il faut donner du sens, mais le sens, c'est pas nécessairement l'utilité, c'est pas évidemment l'employabilité immédiate, ni même l'employabilité professionnelle. Le sens, c'est la capacité à progressivement y voir clair grâce à un certain nombre de savoirs que l'on s'approprie et qui permettent de lire le monde, de se comprendre et de se comprendre dans le monde. Alors effectivement, mon interlocuteur a parfaitement raison, ça demande parfois un certain sursis. Accéder au sens tout de suite dans l'immédiat, c'est parfois un peu compliqué. Mais néanmoins, ce sursis n'est acceptable que s'il y a une promesse. C'est-à-dire que l'élève ne va sacrifier une satisfaction immédiate, ne va sacrifier des activités triviales auxquelles il se livrerait plus volontiers pour faire de la poésie ou pour s'intéresser à la loi de Joule, que s'il sait qu'à travers Verlaine ou la loi de Joule, il y a moyen d'accéder à un plaisir intellectuel, à une joie de comprendre. Et ça, je pense que l'école n'en témoigne pas assez. Je pense que les enseignants eux-mêmes ont une forme de réserve par rapport à ça. Ils ont en quelque sorte intériorisé l'idée que le savoir n'était pas en soi source de satisfaction, de plaisir et de bonheur, et ils le transmettent pas en tant que tel, tant et si bien, je le disais tout à l'heure, c'est un point fondamental pour moi, que seuls ceux qui savent que ce sacrifice immédiat est porteur de satisfaction future, vont pouvoir faire ce sacrifice immédiat. Les autres sont dans l'ignorance de ces satisfactions futures et donc ils pataugent dans l'immédiateté en essayant de trouver tant bien que mal ce qu'ils peuvent utiliser à l'extérieur de l'école dans ce qu'on leur enseigne et qui en général, il faut bien le dire, est assez pauvre parce qu'en mathématiques, en dehors de la proportionnalité, je veux dire, on pourrait s'arrêter à la proportionnalité. Ni vous ni moi n'utilisons beaucoup de mathématiques au-delà de la règle de 3, et si je vous interrogeais sur la loi de Joule, madame, que vous avez évidemment apprise quand vous étiez au collège, oui. Si je vous demandais de me dire si vous en faites un usage quotidien,
pas quotidien,
bien évidemment, vous me diriez que c'est pas le cas. Pourtant, E égale RI est une formule importante et qui permet de comprendre des tas de choses. Mais cette formule, elle a été transmise dans la perspective de préparer un examen et de répondre à des questions, et pas de comprendre le monde, pas comme un outil d'émancipation et de découverte à travers lequel on refait en quelque sorte l'histoire des hommes et des hommes qui ne se cantonnent pas à l'ignorance, qui ne sont pas dans les préjugés, mais qui, toujours de manière plus hardie, tentent d'y voir clair dans ce qui les entoure et dans ce qu'ils sont. Et associer les élèves à cette aventure-là, les associer à des savoirs qui sont vivants, aventureux, dans lesquels ils sentent vibrer, l'enthousiasme de ceux qui les ont élaborés et qui sont encore en quelque sorte présents à eux, ça me paraît un des enjeux fondamentaux de l'école. Et là, je pense qu'on serait probablement d'accord avec mon interlocuteur.
Un mot sur l'orthographe.
Moi, je suis un maniaque de l'orthographe. Je ne supporte pas les fautes d'orthographe à l'université. Je fais la chasse aux fautes d'orthographe d'une manière absolument pas possible. Pas seulement à l'orthographe, d'ailleurs, aux fautes de grammaire, aux inexactitudes et aux approximations dans la façon dont on écrit. Je suis un maniaque de la précision dans l'expression écrite. Et je pense que là, l'école est gravement responsable, pas seulement sur l'orthographe, elle est gravement responsable d'une forme de laxisme au regard des travaux qu'elle demande aux élèves. Au fond, on vit à l'école en rendant perpétuellement des travaux auxquels on a des notes, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, et puis on fait un devoir la fois d'après, mais jamais on ne va au bout dans cette pédagogie du chef-d'œuvre que dans le livre que vous avez cité, mon collègue Malico,
André Malico, directeur de formation et des études,
compagnons du Tour de France et du Devoir, promeut et que je crois une pédagogie absolument essentielle qui consiste non pas à se satisfaire d'un mauvais devoir imprécis, mal fagoté, bourré de fautes, en disant ça vaut 6 et puis continue, si tu échoues tu seras exclu, si tu réussis, eh bien tu seras en situation de passer en classe supérieure, mais de dire au gamin, de dire à l'élève, ceci, cela, tu peux l'améliorer et moi je vais être à tes côtés pour transformer tout ce que tu fais en chef-d'œuvre dont tu puisses être fier et qui va contribuer à inverser cette logique de l'échec dans laquelle tu es. Combien d'élèves ont la possibilité de dire à un moment ou à un autre de leur année scolaire, ça je l'ai fait, j'en suis content, j'en suis heureux, je suis allé jusqu'au bout de moi-même et ce chef-d'œuvre-là, je peux le revendiquer. Quand j'ai proposé en 1998 les travaux personnels encadrés, qui font partie de cette pédagogie nouvelle que notre collègue n'a pas l'air d'apprécier, c'était dans cet esprit-là. C'était pour permettre aux élèves, non pas d'accumuler de devoirs médiocres dont on fait la moyenne en fin d'année, mais d'aller jusqu'au bout du une exigence pour savoir ce dont ils sont capables de faire, y compris dans la rigueur et la précision de l'orthographe, du style, du choix des mots, parce que rien n'est innocent et moi-même, je traque les virgules en trop et je fais mettre des tas de virgules en permanence.
Et vous n'aimez pas les moyennes, vous le dites aussi dans ce livre, Philippe Mérieux, Loïs Bonneau, encore une fois, vous tombez d'accord, non ?
Oui, oui, tout à fait, je salue cette exigence, mais je m'étonne parce que je ne l'ai pas retrouvée moi-même dans le discours institutionnel tel que j'ai pu le rencontrer. Et puis j'avouerais qu'on est en telle difficulté maintenant au collège ou au lycée avec l'orthographe qu'on ne sait même plus par où commencer. Ça devient... Effectivement, il ne s'agit pas d'une orthographe puriste, hein, il ne s'agit pas ici de faire la dictée de Bernard Pivot, il s'agit vraiment d'élèves qui n'ont plus la capacité de s'exprimer correctement, vraiment. Pour vous donner un bon exemple de cette pédagogie du plaisir qu'on essaie de faire entrer à l'école, j'ai lu encore il n'y a pas longtemps une étude qui disait que finalement, les élèves, ils écrivent en SMS, c'est pas si mal que ça, peut-être même qu'on devrait les étudier en classe, quoi, voilà, et qu'on devrait demander aux élèves de venir avec leur téléphone portable.
L'étude qui vient de l'Université de Poitiers voilà. disait que les SMS ne dégradent pas l'orthographe élèves dans leur copie.
Moi, j'invite à réfléchir à cette étude, et bien, elle s'inscrit un peu dans cette réflexion
générale. On va mettre un lien sur le site
Le SMS, c'est comme le télégramme de ma grand-mère, quand elle écrivait « Viens chercher gare, 16h, stop ».
Exactement, vous avez raison.
L'important pour l'élève, c'est de comprendre la différence entre un signal et un signe élaboré, qui est un texte au sein duquel on essaye d'améliorer l'expression. Et je crois que ce que nous avons à faire avec les élèves, c'est à travailler sur le brouillon, à reprendre les textes, à les affiner, à les ajuster, à arriver à cette espèce de perfection du texte qui fait que l'intention coïncide avec l'expression. Et je suis convaincu, mais vraiment, que tous les élèves, même les plus en difficulté, peuvent trouver dans cette forme d'exigence-là, au-delà du plaisir, de la réalisation de soi et un outil pour vraiment se développer et se construire comme personne, comme professionnel et comme citoyen exigeant par la suite.
Philippe Mérieux, pour qu'on ne termine pas cette émission sans parler encore du plaisir d'apprendre, est-ce que ce plaisir, si on vous comprend bien, et pour que les auditeurs comprennent bien où vous avez voulu en venir avec cet ouvrage et ce que disent aussi les nombreuses personnalités qui y ont participé, ce plaisir, il est lié à l'effort. Ce plaisir, il est lié aussi à ce que donnent des adultes à des enfants. Ce plaisir, il est lié à la compréhension.
Oui, bien sûr. Il y a un entretien avec Marcel Gaucher que vous avez cité tout à l'heure dans ce livre. Et moi, j'étais très frappé par cette remarque de Marcel Gaucher dans un livre qui s'intitulait « Conditions de l'éducation » quand il dit qu'un des grands enjeux de l'école aujourd'hui, c'est d'apprendre aux élèves qu'on peut trouver du plaisir dans l'intelligence alors que toute la société leur dit qu'il faut prendre son pied et non pas se prendre la tête. Et Marcel Gaucher ajoute « Nous avons vécu pendant des millénaires dans une situation où le corps était le lieu de toutes les souffrances et où l'intelligence était au contraire le moyen de grandir et d'une certaine rédemption. Aujourd'hui, ce qui est évoqué à tout bout de champ par la société, par la machinerie publicitaire, c'est que c'est le corps qui est le lieu de toutes les satisfactions et que l'intelligence, la compréhension, le travail intellectuel est l'occasion de toutes les souffrances. C'est cela qu'il nous faut renverser dans la tête de chacun de nos élèves en leur faisant découvrir qu'il y a des occasions à l'école pour trouver du plaisir à comprendre, et cela dans une rencontre où, évidemment, la personne de l'enseignant et la façon dont elle se situe elle-même par rapport à son propre savoir fait que les autres se disent « Oui, bon Dieu, mais c'est bien sûr !» Il y a du plaisir à apprendre, et ce plaisir-là, il n'est pas réservé à une élite, il est aussi pour moi.
Et c'est donc un manifeste et c'est publié chez Autrement. Merci beaucoup Philippe Mérieux. La semaine prochaine, parole aux élèves, mais pas seulement. On parlera du lycée autogéré de Paris avec deux anciens élèves et une dessinatrice de bande dessinée qui a passé un an en immersion dans cet établissement parisien à pédagogie alternative. Je vous laisse tout de suite avec Aline Payet pour le Temps Buissonnier. Très bon après-midi sur France Culture.